voix nue. Ce soir encore, Lucille Como rencontre Paul Vecchiali. Tout de suite, retour chez soi.
Bonsoir Paul Vecchiali.
Bonsoir.
On parlait hier du groupe que vous avez fondé dans les années 80 pour faire des films, un groupe qui s'appelait Diagonale, et on parlait aussi des difficultés que vous avez eues dans les années 90 et puis 2000 pour réaliser les films que vous aviez envie de réaliser. On parlait en particulier de la télévision, et j'aimerais à nouveau parler de ça, de la télévision, parce que vous avez été beaucoup demandé à la télévision, on vous a beaucoup demandé de faire des choses, c'était des commandes. Qu'est-ce qui explique ça? Comment vous expliquez qu'on vous ait demandé de faire des films pour la télévision? Vous étiez pratique, Paul Vecchiali?
J'étais quelqu'un qui travaillait vite. Donc je faisais gagner de l'argent avant même que le téléfilm soit diffusé. C'était pas mon talent qui les intéressait. Enfin, je suis un peu injuste avec Pierre Gamble, qui m'a proposé d'ailleurs mon premier... Non, j'ai fait de la télévision avant de faire du cinéma. Je faisais des petits trucs pour enfants qui s'appelaient « Réservé aux curieux ». Et ensuite Clignotant, qui était en vidéo, hein, donc j'ai fait de la vidéo, moi, très très tôt, parce que j'avais besoin d'argent, et en même temps, c'était la femme Julien Guillaumard, qui était productrice, Colette Coty, qui joue d'ailleurs quelquefois dans les téléfilms. Et donc, je faisais pas de différence, hein, je veux dire, on avait de la pellicule, on avait des comédiens, on avait un cadreur... L'essentiel, c'était que, et ça, c'était pour moi absolument indispensable, je n'ai le final cut. Ce qui veut dire, pour nos auditeurs, que je contrôlais le montage. Et si on me refusait le final cut, je refusais le film.
C'est arrivé?
Oui, mais on m'a rappelé.
Vous avez notamment tourné un film qui s'appelait Zone Franche à la fin des années 90, qui était là carrément une commande du ministère de la Culture, je crois.
Oui, c'était pas de la télévision.
C'était pas de la télévision. C'était une commande.
Oui. C'était Monsieur Douste Blazy. Alors, je ne comprenais pas pourquoi on venait me chercher du ministère de la Culture alors qu'on me refusait l'avance sur recette. Je trouvais quand même qu'il y avait quelque chose de bizarre. Avant, je reviendrai après, si vous permettez, je fais juste un petit flashback. Quand Raymond Barre a demandé à rencontrer des gens représentant leur art, il y avait par exemple Jean-Pierre Vincent pour le théâtre, il y avait Xenakis pour la musique, c'est Paul Vecchiali qui représentait le cinéma. Pourquoi? Donc il y a toujours eu comme ça dans mon parcours, j'aime pas le mot carrière, dans mon parcours, des incohérences. Bref, je reviens donc à cette chose-là. Je vois M. Douste Blazy, très courtois, et qui me dit, voilà, vous faites un court-métrage. Je dis non. Non, je ne fais pas un court-métrage. Mais pourquoi? Je dis parce que le court-métrage est un produit culturel et que les jeunes qui vont travailler ne verront jamais le résultat du film. Alors que si on en fait un long-métrage, à ce moment-là, il peut sortir en salle, il peut être dans les festivals, il peut vivre. Les courts-métrages sont un peu... ils sont réservés au festival, en fait. On les montre plus avant les longs, maintenant. Bon, bref, à l'époque, déjà, comme ça. Et il me dit, ben, je veux bien, mais je vous donnerai pas plus d'argent. Et je lui dis, pas de problème.
Parce qu'il faut rappeler, donc, du coup, la teneur de cette commande, c'était de tourner avec des jeunes d'une cité de banlieue parisienne, je crois.
Non, pas du tout. Les Coteaux, qui était la banlieue de Mulhouse. Et qui est, j'ai pas honte à le dire, qui était fait de dealers. En grande partie, pas que ça, mais il y avait en grande partie des dealers. Un petit jeune homme qui avait une Alfa Romeo alors qu'il était, qui travaillait comme manœuvre dans un garage. Et évidemment, on était accueillis assez mal. Les chaises volaient. Tu viens faire du fric sur notre dos. Et je dis non, je regrette, mais je ne suis pas payé. Je le fais gracieusement. Voilà, tu t'imagines quoi, croise, etc. Donc j'ai interrompu la discussion en disant, je retourne à mon hôtel, je vous donne une demi-heure. Dans une demi-heure, je reprends le train, si vous n'êtes pas venu. Au bout de 10 minutes, il y en a 3 qui sont arrivés et qui ont dit, écoute, on a réfléchi, après tout, on va jouer la meilleure chance. Et à ce moment-là, on a commencé à bâtir le scénario avec eux. Une fois le scénario bâti sur pas mal de mois, je suis retourné chez moi, j'ai écrit les dialogues, je suis revenu, je les ai pris deux par deux ou trois par trois ou un par un, et je leur ai dit voilà le texte que j'ai écrit, mettez vos mots à la place si vous voulez. Et la plupart du temps, ils ont pris mes mots. Il est arrivé même qu'au dernier moment, ils avaient changé la phrase, et ils me disent « Oh, finalement, Paul, on va prendre tes mots. »
Alors, c'était quoi l'histoire de ce film, Paul Vecchiali ?
L'histoire a été inventée par eux, c'est-à-dire c'est une famille black qui arrive dans un immeuble HLM où résident beaucoup de musulmans. Et tout de suite, il y a un bizutage, on leur vole la télé, on leur vole le truc. Et petit à petit, il y a une histoire d'amour entre un musulman et une blague. Et il y a un flic abominable qui était joué par Jacques Le Carpentier, un vrai comédien, lui. Et il y avait aussi une famille, un homme et une femme blancs qui étaient dans cet immeuble, que j'avais appelé Tefal avec deux F, et qui était joué par deux comédiens de théâtre de Mulhouse. Ça, c'était l'ensemble. Mais j'ai compris assez vite qu'ils voulaient me faire raconter une histoire qui leur était arrivée, c'est-à-dire il y a un jeune black qui a été tué par un blanc. Et ils ont vraiment, j'allais dire, joué le jeu, sans jeu de mots, parce que j'avais, moi, fait mon découpage en fonction de ce que je fais d'habitude, en me disant, faut pas rêver, faudra le transformer, pas du tout. Ils l'ont respecté, ils savaient toujours trouver leur place. Et quand on fait des travelling un peu compliqués, je m'attendais pas à ça. Donc là, sur ce plan-là, c'était formidable. Sur un autre plan, c'était pas ma morale, c'était pas mon milieu, et j'ai beaucoup, beaucoup souffert tout le long du film. Avec finalement trois crises cardiaques. Enfin, voilà. Bon, mais j'ai eu ma récompense parce que le film a été sélectionné à Venise. Et ils sont venus quand même à 7. Et le héros, Farouk, avait la chambre voisine de Denis Roux. Ça, c'est assez folklorique quand même. Mais j'ai eu ma récompense parce que quand on a interviewé justement Farouk, il a répondu « Paul ne nous a rien laissé passer, mais il nous a respectés. » Ça, j'ai trouvé que c'était vraiment... ça valait le coup, quoi.
Vous avez fait trois crises cardiaques, après vous avez dû vous arrêter, vous avez continué comme
si de rien. Non, les crises cardiaques, il ne faut pas exagérer, ce n'était pas des infarctus. C'était de l'arythmie et de la tachycardie. Mais on ne peut plus bouger, hein, pratiquement. Donc je me suis retrouvé à l'hôpital avec perfusion de cordarone. Et puis le lendemain, je prenais l'avion. Hein, c'était pas... Mais j'ai commencé à voir ça avec un film qui s'appelait Wonder Boy. Qui a été vraiment massacré par le... Enfin bon, passons.
Aujourd'hui, Paul Vecchiali, vous vivez dans le sud, vous vivez au plan de la Tour, dans le Var, à quelques kilomètres de Toulon, où vous avez grandi. Quand est-ce que vous avez décidé de vous réinstaller dans cette région ?
Oh ben, c'est-à-dire que quand j'ai fait les Jurés de l'Ombre, j'ai gagné beaucoup d'argent. Parce qu'on m'a proposé 600 000 francs et j'ai dit « je veux le double ». Et Henri Spade s'est mis à rire et il m'a dit « oui, ok, allez, mais un conseil, change d'agent ». L'histoire. Et je me suis dit, tiens, je vais acheter une maison là-bas. Alors j'ai tourné, et puis je trouvais rien de bien. Et Jean-Paul Gauthier, qui est maintenant mon voisin, et qui est administrateur de Diagonale, me dit, tu sais, la maison à côté est à vendre. Je lui dis, mais t'es fou, elle est trop chère. Et puis je suis allé voir, il m'a dit, qu'est-ce que c'est ? Je suis allé voir le gars, je lui dis, je vais te proposer, je le connaissais bien, il s'appelait Trevor Fiore, un designer. Et je lui ai proposé, je lui ai dit, je vais te proposer quelque chose, tu vas me foutre dehors. Il m'a dit, allez, vas-y. Je lui ai dit, 1,6 million, il m'a dit dehors. Après, j'ai appris qu'il venait de divorcer, que sa femme avait la moitié de la maison, alors qu'elle n'avait rien mis dedans, qu'il était sous hypothèque. Donc, je lui ai reproposé 1,3 million. Vous devinez comment se passe le complément ? Que sa femme n'a pas vu. Et il a dit oui tout de suite. Et je me suis retrouvé avec moins de 1,6 million, propriétaire d'une villa absolument incroyable.
Une villa que vous avez appelée Meyerling. Meyerling,
oui,
c'est une petite ville
autrichienne. Oui, au début, je voulais l'appeler à l'ombre des jurés. Et puis je me suis dit non, il faut retourner à mes premières amours. Et elle s'appelle Meyerling.
Meyerling, c'est un film de 36, un film d'Anatole Litvak.
Oui, avec Daniel Darieux. Et c'est le film qui a décidé de ma vocation.
À quoi ressemble la maison, Paul Vecchiali?
Bah écoutez, on la voit dans presque tous mes films, alors il suffit d'aller au cinéma pour voir à quoi elle ressemble. Elle est très jolie, elle a une piscine sur le toit, bien haut, fait qu'on est... Il n'y a pas de vis-à-vis, vous voyez ce que je veux dire? On peut se baigner comme on veut. Et c'est une maison, et c'est très étrange d'ailleurs, parce que... Quand on y rentrait avec mon compagnon, on avait l'impression que la maison nous rejetait. Sans se le dire comme ça, on avait cette impression-là. Ensuite, on a meublé la maison. Puis j'ai installé mon bureau au rez-de-chaussée. D'ailleurs, à l'étage en dessous du salon. Et quand je me suis installé avec l'ordinateur, j'ai eu comme un déclic, vous savez, comme quelque chose qui s'est parcouru. Puis je suis remonté, et puis j'ai dit à Malik, je lui ai dit, tu sais, je crois qu'on est accepté. Il m'a dit, j'ai eu le même sentiment. Et effectivement, après, on était vraiment à l'aise dans cette maison, on n'avait pas de... Il n'y a pas de mauvais flux, on va dire.
Vous avez compris ce qui s'était passé, Paul Vecchiali?
Non. Non, je pense que... Comme quand on rencontre quelqu'un qu'on ne connaît pas, il y a une méfiance de base. Enfin, ça... C'est un peu farfelu, hein, ce que je raconte là. C'est un sentiment qu'on a eu, donc je le retransmets. Mais je crois pas du tout à tout ça. Je crois aux ondes, en revanche. Je crois beaucoup aux ondes. Hein. Et je crois aux ondes depuis un moment qui est quand même été tragique dans ma vie. C'est que ma mère était dans une maison de repos. Et je devais aller la voir le 20 novembre. 1982, c'est-à-dire entre les deux morceaux du tournage de En haut des marches. Et j'étais sous ma douche, et il était 11h30, et je me suis mis à sangloter comme un fou, et j'ai appris que ma mère était morte à 11h30. Donc il y a bien sûrement des ondes, mais je crois pas, je crois rien. Bah, c'est... Là, je constate, voilà.
Vous le disiez, vous avez beaucoup tourné chez vous, vous avez beaucoup tourné, vous tournez beaucoup au plan de la tour, vous avez aussi tourné au Kremlin Bicêtre, là où vous viviez auparavant. Savez,
Mathieu Orléans a écrit un bouquin qui s'appelle La Maison Cinéma, et ça veut dire ça, et puis j'ai recommencé à Meyerling, évidemment. Meyerling, c'était encore plus facile, parce qu'il y a énormément de pièces, hein. J'ai 8 chambres, donc on peut déjà accueillir les principaux techniciens, après il y a des gîtes pas trop loin qu'on peut louer. Et on mange là avec Malik qui fait la cuisine, aidé par le chef déco. Ce qu'il y a, si vous voulez, le cinéma, mon cinéma actuel, c'est un cinéma où n'importe qui fait n'importe quoi. Voilà. Dans le film que Laurent Achard a fait sur mon tournage, on voit le perchman qui porte des chaises, on voit l'assistant qui met les tables en place, on voit... il y a une entente comme ça, puis ça se fait presque automatiquement, il n'y a pas d'ordre donné. Et quand on passe au tournage, ben on garde cette espèce de lien d'affection, de tendresse, et on finit presque toujours avant l'heure. Et je donne toujours au chef-op le temps qu'il me demande. Et même quand je lui montre le plan de travail de la journée et qu'il y a des plans d'extérieur, il me dit, si ça t'embête pas, ce plan-là, il faut le faire à telle heure. Après, évidemment, on va repérer. Et moi, je suis aux ordres, là. C'est son image, il faut respecter ce qu'il a envie de montrer à l'écran.
Oui, parce que vous, Paul Vecchiali, vous n'avez jamais voulu être au cadre, jamais voulu être à l'image.
J'y ai été deux fois. Une fois parce que Georges Trouvé ne rentrait pas dans la voiture. Et une fois parce que je lui avais demandé de valser, il m'a dit « je ne sais pas valser ». J'ai donc valsé avec la caméra. C'est les deux fois, mais sinon, pour moi, le hors-champ influe beaucoup le champ. Donc je préfère voir le hors-champ dans son ensemble, en ayant dans la tête le petit bout de champ qui va être transmis au spectateur. Mais, des exemples imbéciles, je veux dire, il y a une moto qui passe, l'acteur ne réagit pas comme s'il n'y avait pas de moto. Alors, soit on coupe, soit on dit « c'est pas mal pour le film », et si on est à la caméra, on a l'oreille qui entend la moto, on est coupé. S'il y a, je sais pas, une feuille qui tombe hors champ, et que l'acteur tourne la tête pour voir tomber la feuille, coupé. Mais en fait, si on est dans l'espace, on dit « il regarde la feuille » et ça va passer à l'écran. Donc, je déteste me mettre à la caméra. Et très, très, très souvent, je ne vais même pas voir le cadre parce que avec Philippe Botiglione, on se connaît par cœur.
Votre chef opérateur.
Mon chef opérateur et cadreur. Et il sait parfaitement ce que j'attends de lui. Donc on a une grande complicité. On a commencé ensemble d'ailleurs sur le film de Mulhouse.
Zone franche.
Ça fera bientôt 20 ans, l'année prochaine.
Est-ce qu'il y a quelque chose, Paul Vecchiali, de méditerranéen dans la manière que vous avez de faire du cinéma ?
Je pense que c'est pas à moi de le dire. Je sais que je suis très imprégné du tragique méditerranéen et que ça doit passer dans mes films. Mais je suis corse et les Corses ont aussi le sens de l'autodérision. Donc il y a des choses qui se compensent comme ça, je pense. Mais je peux pas m'amuser à faire une analyse de mon travail.
Vous avez publié il y a quelques années un dictionnaire des cinéastes français des années 30, un dictionnaire qui s'intitule « L'encyclopédie », j'ai réussi à le dire, avec deux grandes figures tutélaires pour vous. Il y a Grémillon d'un côté et puis il y a Ophuls de l'autre. Qu'est-ce qu'il représente ? Est-ce que c'est deux pôles dans le cinéma français de cette époque-là, Paul Vecchiali ?
Oui, parce qu'ils ne font pas du tout le même cinéma. La grandeur de Grémillon, c'est de travailler sur les sentiments. Je ne sais pas s'il l'a dit, mais en tout cas ça se voit dans ses films, il pense que les sentiments sont le reflet d'une époque, donc c'est en même temps des films politiques. Et moi j'ai fait mien cet adage, que je lui ai peut-être prêté, mais je le ressens dans ses films. Et chez Ophuls, en revanche, il y a la grâce, il y a l'élégance, il y a la virtuosité, il y a ce que j'adore, c'est le travelling. Donc je suis un peu entre les deux, mais je pense pas qu'il y ait d'influence, ou alors, s'il m'est arrivé, par exemple, de faire dire dans Once More à l'ex-femme de Jean-Louis Roland, mais tu as souri, et un critique m'a dit, mais c'est dans Remorque, ça. Ah, je dis, oui, c'est vrai. Donc c'est inconscient. En revanche, je leur rends des hommages, oui. J'ai rendu hommage à Mankiewicz, Mrs. Muir, dans Retour à Meyerling, il y a vraiment un plan. Et dans Le Cancre, il y a aussi le verre de lait, comme dans la fin de Mrs. Muir. J'aime bien faire des citations des gens que j'ai aimés, ou alors des clins d'œil à des films que j'ai pas aimés.
Est-ce que vous pensez que c'était le bon temps pour le cinéma, les années 30 ?
Oui.
Pour le cinéma français en particulier ?
Oui. Bon. Sans faire d'analyse comme ça précise, je crois qu'il y a eu un saut entre les années 30 et les années 70. Et que le cinéma français a été le plus grand du monde dans ces années-là. 30 et 70. Ce qui me fait sauter la nouvelle vague, que j'adore. Mais je pense que l'espèce de réflexe qu'ont eu les gens de la nouvelle vague a été quand même sous le signe de la cérébralité. Donc on perdait de vue un peu les sentiments et les personnages au profit d'une idée de film. Bon, c'est pas toujours vrai, par exemple Jacques Rosier, c'est pas ça. Et nous, Diagonale, donc, on a amené le retour aux sentiments, le retour aux personnages, au respect des personnages, et le refus de la cérébralité. C'est comme ça, je pense, parce que il y a des gens qui nous ont suivis. Il y a pas mal de gens dans les 70 qui ont, je dis pas qui ont copié, mais qui ont réfléchi comme nous.
Est-ce que vous allez au cinéma voir le cinéma français, le jeune cinéma français aujourd'hui, Paul Vecchiali ?
Dans mon petit village, il y a juste un complexe Gaumont. C'est pas ces films-là qu'on passe. En revanche, je vois 2-3 films par jour, grâce à Canal et puis au câble. Donc, des fois, c'est des films que je revois avec un bonheur fou. Dernièrement, il y avait Meyerling, d'ailleurs. Et puis, je vois les films français récents qui passent sur Canal.
Dans un de vos derniers films, C'est l'amour, il y a une sorte de parodie d'un film récent qui a eu un certain succès ces dernières années. Ce film, c'est L'inconnu du lac, un film d'Alain Guiraudy, qui se réclame d'ailleurs de vous et que je crois vous aimez bien. Alors, votre personnage est un acteur qui a joué dans un film. Il y a un effet de mise en abîme. En fait, on voit quelques images de ce film que vient de tourner l'acteur en question.
Parce qu'il faut préciser qu'une jeune femme regarde à la télévision une émission qui est consacrée à cet acteur qui vient d'être
césarisé. Qui est en interview.
qui est en interview, et à un moment donné, l'intervieweur est tellement gêné par ce qu'il voit, parce qu'il est saoul et qui rit tout le temps, il dit « Bon, il est temps de voir un extrait de votre film ». Et on voit ce film-là. Alors, il y a, pardon de le dire comme ça, un imbécile de la critique qui a dit « C'est charmant, ce clin d'œil, mais ça sert à quoi ?» Eh bien, ça sert simplement au fait que dans cette scène qu'on voit, un des personnages rencontre un autre personnage. Ah bon, vous voyez donc, je ne sais pas où il est dit dormait, où il est dit distrait. Mais...
Non, en l'occurrence, c'est une scène de plage, comme dans le film de
oui,
l'Inconnu du lac.
Oui, avec des hommes nus.
Voilà, de drague entre hommes.
C'est ça.
C'était juste un petit clin d'œil malicieux, Paul Vecchiali ?
Non, il le sait, je n'aime pas du tout son film. Je pense qu'Alain Guiraudy était vraiment un des plus grands auteurs de sa génération, avec Laurent Achard, qui pour moi est encore plus grand. Mais bon, j'aime beaucoup Alain, et Ce vieux rêve qui bouge restera pour moi un des plus grands films des dernières années. La suite de son œuvre est toujours passionnante, et j'ai été choqué par, à tort ou à raison, je dis pas que j'ai raison, mais j'ai été choqué par L'Inconnu du lac. Je pense que il peut faire beaucoup, beaucoup, beaucoup mieux, et qu'il l'a fait beaucoup, beaucoup mieux.
J'ai été frappée, Paul Vecchiali, par une quatrième de couverture d'un de vos livres, parce que vous écrivez aussi. En l'occurrence, c'est un livre de nouvelles qui s'appelle « Quand meurt le fantastique ». Il y a une petite bio de vous sur la quatrième de couverture. Donc, Paul Vecchiali construit depuis 30 ans une œuvre de cinéma, etc. Puis, à la ligne, par ailleurs, Paul Vecchiali est un écrivain. Est-ce que pour vous, la littérature est un ailleurs du cinéma ? Est-ce que vous l'y dissociez tout à fait ? Dans votre travail d'écriture ?
Ben oui, certainement, parce que j'écris très très vite mes scénarios et je mets beaucoup, beaucoup, beaucoup plus de temps à écrire mon roman. 20 fois sur le métier, disait l'autre, mais moi c'est quelquefois 100 fois. Je veux dire, je peux rester 1 an, 2 ans à travailler sur un roman. Parce que j'aime la belle phrase et que je n'écris pas obligatoirement une belle phrase tout de suite. Après, peut-être que je me trompe quand je pense que la phrase est belle. Mais j'adore écrire, hein. J'ai écrit toute ma vie. Je vais raconter une histoire qui est drôle. Quand j'avais 7 ans, ma mère m'emmenait voir une voyante qu'on appelait la femme à l'œil. C'est-à-dire qu'elle versait 3 gouttes d'huile d'olive sur une soucoupe où il y avait de l'eau. Et elle agitait la soucoupe et avec ça, elle parlait du personnage. Et ma mère m'a emmené devant, donc elle a fait son petit travail. Et ma mère lui a dit alors, et elle a dit, je vois des tas de feuillets, de feuillets, de feuillets, de feuillets, et votre fils en haut des feuillets. Moi, j'étais mort de rire. Et puis, finalement, c'est un peu ça.
Est-ce que vous avez déjà adapté un de vos textes au cinéma ? Je veux dire, est-ce que vous êtes déjà parti de quelque chose que vous avez écrit, pas pour l'écran, pas pour le cinéma ? Pour faire un scénario, Paul Vecchiali.
Non, en revanche, j'avais fait un petit synopsis d'une page pour Jean-Christophe Bouvet, qui s'appelait La Cérémonie, un court-métrage, et je ne l'ai pas fait. Et l'an dernier, j'ai fait La Cérémonie avec, à la place de Bouvet, Pascal Cerveau. Et qui plus est, j'ai demandé à Astrid Adverbe de jouer la partenaire, et elle m'a dit « Mais pourquoi tu ne fais pas les 2 versions ?» Et j'ai fait donc la cérémonie avec hypothèse 1 et hypothèse 2, mais les rôles s'inversaient, sauf le mien qui suit le papa dans les deux cas.
Un de vos derniers films s'appelle « Nuit blanche sur la jetée ». Vous avez travaillé, comme son titre l'indique, à partir de plusieurs textes de Dostoïevski. Est-ce que c'était la première fois que vous vous essayiez à ça, à l'adaptation de grands classiques de la littérature ?
Oh non, mais j'ai jamais pu monter les films. Non, j'avais adapté « La Duchesse de Langeais », j'avais adapté « Adélaïde » de Gobineau, « Mademoiselle Yernois » aussi de Gobineau. J'ai adapté « La Duchesse de Langeais », j'ai travaillé sur « La Dame de Ronsoro ». J'en oublie sûrement, parce que j'ai passé ma vie à travailler. C'est pas difficile. Passé ma vie à avoir des projets, j'ai fait le compte, j'ai à peu près 60 projets non aboutis. Et donc voilà, jamais c'était arrivé comme ça. Et là, l'histoire de Nuit Blanche, elle est simple. J'ai revu coup sur coup le film de Bresson, 4 nuits d'un rêveur, et Notti Bianche de Visconti, que j'ai adoré. Donc pour moi, il était hors de question que j'aille me mesurer à ces géants. Mais je ne connaissais pas la nouvelle. Je l'ai lue. Dans le livre de poche, il y avait à côté les carnets du sous-sol. Et liant les deux trucs, je me suis rendu compte que j'avais un point de vue tout à fait différent d'eux. sur le texte de Dostoïevski, ce qui m'ouvrait la porte.
Les carnets du sous-sol, je rebondis là-dessus, c'est un journal. Est-ce que vous tenez votre journal, Paul Vecchiali ?
Non, mais je fais une autobiographie qui arrive à sa fin, comme moi.
Aujourd'hui, vous avez 86 ans.
Oui.
Combien de projets en ce moment sur le bureau ?
Alors, de près, 3 et 10 à peu près qui tournent dans la tête. J'ai un des projets qui serait la suite du Cancre, qui s'appellerait Fratrie. J'essaye de remonter la Marquise de Tavissettre avec Josiane Balasco et Edith Cobb, et bien d'autres évidemment, puisqu'il y a beaucoup de personnages. J'ai un autre projet qui serait un film très subversif contre le mariage pour tous, très très violent, que j'ai pas écrit du tout, lui.
Vous n'allez pas encore vous faire des amis avec ça?
Je cherche pas à me faire des ennemis, je cherche pas à me faire des amis. Je fais ce que j'ai envie de faire et tant pis si ça déplaît. C'est pas. Je reviens à la phrase, je sais que je dérange et ça m'est égal. Et puis je pense qu'un cinéaste est là pour déranger. Sinon, c'est un fonctionnaire.
Je vais revenir à une phrase que vous avez dite tout à l'heure, qui est l'exergue de Femme-Femme, puisque Femme-Femme souffre sur une citation de Camus. Je vais la redire, c'est « Pour vivre dans la vérité, jouer la comédie ». Est-ce que ça pourrait être une devise pour vous, Paul Vecchiali ?
Oui, croyez-moi. Pour vivre dans la vérité, oui. Alors là, j'oublie un autre projet que j'ai, et qui lui est vraiment en place. C'est un opéra bouffe que j'ai écrit, qui se passe le jour de la libération de Ramatuelle, à Ramatuelle, un dimanche, et il s'appelle donc le jour du Seigneur. J'ai l'accord d'Ariel Dombal, de Mathieu Amalric, et je cherche, je dis pas qui, je cherche à compléter ce casting pour trouver de l'argent, parce que une première fois on l'a présenté, et ça, on n'a pas trouvé d'argent parce que c'était des gens pas trop connus. Et ça sera, pour la première fois de ma vie, un film totalement en playback. Quelquefois, par exemple, si Lambert Wilson me disait oui, il peut lui-même chanter, Ariel Dombal peut chanter, et puis chanter sur sa voix après, je veux dire. Mais si c'est pas le cas, Mathieu Amalric ne sait pas chanter, il chantera en playback. Donc j'ai ce projet-là, j'avais rêvé de le faire en un seul plan. Et puis après, je me suis dit que c'était uniquement de la fanfande, un peu de... Hein. Je suis là, c'est moi, je suis cador, je fais un film en un plan. Non. Finalement, je le fais un peu comme par acte, quoi, grossièrement. Alors ça pourrait se faire en 2017, ainsi que Fratrie.
Merci de nous avoir accompagnés tous les soirs, c'était un plaisir, Paul Vecchiali.
Merci à vous.
Fin de cette rencontre de Lucille Como avec Paul Vecchiali. À voix nue, attaché d'émission Claire Poinsignon, prise de son Étienne Leroy, réalisation Anne-Pascale Desvignes, coordination Bellindola. Cette émission s'écoute en ligne et se télécharge sur franceculture.fr. Et dès lundi, une nouvelle rencontre.